Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Gameblog pour le nouveau podcast de la rédaction, le podcast 563. Avec moi cette semaine, nous avons trois personnes. Thomas, qui montre du doigt, et vous savez que ce n'est pas très poli de montrer du doigt, mais néanmoins, on le laisse parler. Thomas, comment ça va ?
Bah coucou, et c'est peut-être pas toi que je pointais du doigt, on va savoir. C'est peut-être ce jeune et faible que je ne reconnais pas là, dans le coin de mon écran.
Effectivement, mais avant de passer au jeune et faible, on va parler d'Alix, qui est avec nous aussi en direct de son nouveau sanctuaire. Vous pouvez voir que c'est très bien décoré et qu'il y a plein de trucs. Il y a quoi d'autre ? Je vois Batman, je vois Iron Man, je vois tes pompes. T'as le même casque Iron Man qu'à la rédac, dis donc, tiens. C'est pas mal,
ouais,
ça.
C'est pas mal,
et Thanos,
ouais.
Etc. Ah, ça va, Alix ?
Ça va très bien, et vous, les gars ?
Bah écoute, ça va. Et la dernière personne avec nous, effectivement, vous ne la reconnaîtrez peut-être pas, maintenant qu'il est devenu cosplayer de Mr. Robot officiel, c'est Camille. Voilà, Camille est avec nous en direct.
Exact, en mode confinement, toujours avec une connexion toujours aussi merdique, mais voilà. J'essaye de faire de mon mieux.
Mais un nouveau décor.
Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, il a un nouveau décor, il est prof de yoga maintenant, d'où le paravent
derrière.
Non mais il faut savoir que les gens le réclament quand même, hein. Plusieurs fois dans les commentaires, on nous a dit « mais où est Camille ?» Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu.
J'ai surtout déménagé entre-temps, donc forcément, il y a eu des petits changements. Mais voilà.
Et tu as subi un relooking extrême.
Non, c'est juste le mode confinement, j'avais envie de me couper les cheveux et c'est tout.
Il y en a qui ont de la chance de pouvoir se couper les cheveux. Bref, le podcast de cette semaine, au sommaire, nous avons tout d'abord l'aperçu de Camille justement sur Age of Empires 4, qui a été un peu montré en fin de semaine dernière. On passera aussi sur les tests du moment, à savoir Outriders, qu'Alix s'est amusé à faire cette semaine. Et Thomas est en train de contrôler un fou rire, j'aimerais savoir pourquoi.
Oddworld. Trace en même temps qui commande des trucs.
D'accord.
Voilà. Oddworld Soulstorm, c'est moi qui vous en parlerai avant, bien que nous terminions avec un petit débat, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de débat à la rédaction. Il y a une rumeur qui tourne en ce moment, grâce à ce cher Jason Schreier, qui dit que The Last of Us aurait droit à un remake sur PS5. Est-ce qu'il en a vraiment besoin ? Ce sera la question qu'on se posera en toute fin de podcast. Mais avant ça, comme d'habitude, on passe par le win et le fail. Alors, le win de cette semaine, mon cher Thomas, ça concerne Monster Hunter. Monster Hunter qui, même sur Switch, c'est un raz-de-marée.
Bah oui, tout à fait.
Et d'ailleurs, c'est moi qui vais en parler.
C'est toi qui vas nous en parler,
tout à fait. Oui, absolument, parce qu'il faut savoir regarder les conducteurs dans la vie.
T'as vu ce que je t'en parle ?
Et oui, absolument. Donc, Monster Hunter Rise, donc, qui est sorti il y a un peu plus de 3 semaines maintenant. Mais la semaine dernière, Capcom nous apprenait que déjà, après un lancement qui avait été... très très réussi, eh bien le jeu s'était écoulé à plus de 5 millions d'exemplaires à travers le monde, ce qui est quand même un chiffre largement respectable pour un jeu Switch tiers qui plus est, quand on sait à quel point ce sont les licences Nintendo qui cartonnent en général dès le départ et pour longtemps en plus sur cette console, eh bien 5 millions d'exemplaires donc, qui ont été en plus récompensés de la part de Capcom puisque l'éditeur a offert un petit pack très sympathique à tous les joueurs de Monster Hunter Rise. Donc voilà, depuis le 26 mars, il y a ce Monster Hunter Rise qui continue à faire des misères à pas mal de jeux Switch. En France, néanmoins, depuis sa sortie, ça s'est calmé. Le dernier top des ventes du CEL et de l'Institut GFK montre qu'il est passé deuxième. Voilà, deuxième derrière Mario 3D World et Bowser's Fury. Donc ça se calme, mais néanmoins, dans le monde entier, Monster Hunter Rise continue de carburer. Et on rappelle que le jeu sortira sur PC en 2022, donc on risque d'en entendre parler encore pendant un petit moment. Et on imagine qu'il y aura des DLC et tout le tralala.
Mais c'est justement intéressant de voir sur la durée, parce que tu le comparais aux meilleures ventes de Nintendo, à voir si Capcom réussit à en faire aussi un long-seller sur Switch. Et si le jeu va réussir à continuer à truster un petit peu le top des ventes et à ne pas retomber rapidement comme un soufflet finalement. Parce qu'on sait que pour le coup, les maîtres en la matière, c'est Nintendo. Et c'est, pour les tiers, c'est très différent. C'est très compliqué de réussir à tenir. Donc ça va être intéressant de voir si la licence qui est désormais la plus porteuse et la plus profitable de chez Capcom va suivre le même chemin.
Oui, parce que rappel, hein, c'est plus de 24 millions d'exemplaires pour Monster Hunter World sur PS4 et PC. Et Rise pourrait encore une fois montrer que c'est la licence qui qui fait vraiment du bien chez Capcom et que bah, y a vraiment un intérêt. On se rappelle qu'il y avait quand même des boîtes qui autorisaient leurs employés à prendre un jour de congé le jour de la sortie de Monster Hunter Rise au Japon. C'est quand même un sacré phénomène.
On appelle ça les Dragon Quest 3.
Absolument. Et maintenant, on va répondre au téléphone déjà pour commencer.
Standardiste de luxe.
On va passer au fail de la semaine. Et cette fois, Thomas, c'est vraiment toi qui t'y colle.
Oui.
Et ça concerne la PS3 et certains jeux PS3, malheureusement, qui, vous le savez, depuis quelques temps, on a appris que le PlayStation Store PS3, PSP et PS Vita allaient fermer. Et sur PS3, il y a déjà des choses qui se passent.
Oui, il y a déjà des jeux qu'on plonge dans le formol, puisque vous savez que cet été, les différents stores justement des trois consoles citées vont progressivement fermer, purement et simplement. Et en attendant, les joueurs en fait ont commencé à faire des petits tests, et il se trouve que sur PlayStation 3, il y a déjà tout un tas de titres qui ne profitent plus de mises à jour, qui ne peuvent plus être mis à jour, ce qui fait disparaître certaines fonctionnalités, y compris évidemment celle de pouvoir jouer en ligne et du coup de récupérer certains trophées. Et c'est toi, mon cher Plume, qui nous en avait parlé. Il y a une première liste en fait de jeux incriminés qui est disponible sur Gameblog, mais aussi sur le forum de PSN Profiles. Et ce qui est assez étonnant, c'est que pour l'instant, seule la PS3 est concernée, mais qu'en plus, en fonction des jeux, le fait qu'ils soient physiques ou des maths n'influe pas de la même manière. Vous allez pouvoir en mettre certains un jour, alors que, par exemple, la version disque, elle, ne pourra pas l'être. On a quelque chose d'un petit peu confus, du coup, qui dépend pas mal des joueurs, puisque ce sont les forumers qui ont pris le temps d'essayer leur ludothèque PS3 et voir ce qui fonctionnait encore et ce qui avait été déjà un petit peu débranché. Et ça renforce cette impression quand même que tout est fait un petit peu à la va-vite, que ça n'a peut-être pas été très bien planifié. Romain nous rappelait il n'y a pas très longtemps qu'il y a même des jeux qui étaient encore prévus pour sortir sur Vita il n'y a pas longtemps, qui pour certains ont finalement été annulés, puisque à quoi bon travailler sur un portage qui ne va être disponible à la vente que quelques semaines. Donc voilà, on a encore cette impression de confusion et surtout un certain dédain vis-à-vis du patrimoine vidéoludique du côté de chez Sony, là où Microsoft en face continue de faire beaucoup d'efforts pour rendre des jeux rétro-compatibles, et puis même, on le sait, automatiquement proposer des mises à jour qui magnifient les jeux des dernières générations. Donc profitez-en, on ne le dira jamais assez, mais si vous voulez télécharger encore quelques jeux des maths, quelques classiques sur le PSN, c'est vraiment maintenant qu'il faut s'y prendre, parce qu'il sera bientôt trop tard.
Ouais, et un des problèmes de cette coupure pour certains jeux, c'est pour MGS4, c'est à lui que je pense en premier, déjà parce que je l'adore, ensuite parce que il y avait un petit souci avec le jeu quand il n'avait pas encore reçu sa mise à jour de 2012, c'était que le jeu s'installait au fur et à mesure, et que vous finissiez un chapitre et qu'il fallait regarder Snake fumer sa clope tranquillement pendant je ne sais pas combien de temps. Donc ça faisait partie des trucs qui étaient plutôt sympas, que Konami avait consenti à faire par la suite grâce à des patchs et mises à jour. Il y a plein de jeux effectivement qui ne vont pas pouvoir être bien jouables, des jeux qui ne vont plus être jouables en ligne à cause de ça, d'autres jeux qui n'auront plus de trophées. Imaginez Johnny One, la tête de Johnny One au moment où il a eu ça. Bref.
Et surtout, si on applique cette logique-là à la génération actuelle et même à celle de la PS4, le nombre de jeux qui nécessitent, même pour la campagne solo, d'être connecté est quand même assez conséquent. Et du coup, c'est des jeux qui pourraient devenir purement et simplement injouables en fait, au moment où on choisira de les débrancher.
C'est terrible. Et va falloir les rééditer, du coup. Va falloir les remasteriser, tous ces jeux. C'est fou, hein. Genre, c'est comme si c'était un business plan qui avait été approuvé. C'est bizarre. Bref. On va passer maintenant au premier thème de la semaine. Le premier thème de la semaine, c'est le pollen. Le pollen qui empêche certains intervenants de ce podcast de vivre une vie normale. Voilà, obligé de vivre dans un espace de 5 mètres carrés, malheureusement, Alix. Bon, c'est pas ça, évidemment, c'est pas ça le premier thème. C'est Age of Empires 4, Camille, que j'ai eu l'occasion d'apercevoir. Age of Empires 4, qui donc est un nouvel épisode de la série Age of Empires qui s'était arrêté il y a quand même un sacré paquet d'années.
Exact, et que vous avez pu découvrir aussi, puisque samedi dernier, donc vous avez pu aussi découvrir ce magnifique live, donc avec la présentation en avant-première du gameplay. Alors déjà, on va remonter un peu en amont par rapport à Age of Empires 4. Il faut savoir que donc le 21 août 2017, on apprenait que Relic Entertainment était racheté donc par Microsoft. On se demandait un peu ce qui se tramait derrière. C'est vrai que Relic Entertainment, c'est un studio de qui fait de la stratégie qui n'a plus rien à prouver. Ils sont derrière notamment la série Dawn of War et surtout derrière l'extraordinaire jeu Company of Heroes qui est sorti en 2006 maintenant, mais voilà, qui marque toujours les esprits. Idem, Company of Heroes numéro 2, enfin, vraiment des jeux stratégie de grande ampleur. Et forcément, bah, qui mieux que ce studio pour reprendre le flambeau de Age of Empire qu'on n'avait pas vu depuis Age of Empire 3, donc il y a maintenant quand même quelques années. Et en 2019, si je ne dis pas de bêtises, Age of Empire 4 a été dévoilé, un peu par surprise, personne ne s'y attendait vraiment. Et là, enfin, bah, 2 ans plus tard, on a pu en voir un peu vraiment du gameplay.
Voir le jeu tourner. Et on sait quand il arrive aussi. Ouais, c'est qu'il arrive cet automne.
Exactement, il arrive cet automne, et ça, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'il y a quand même pas mal de gens qui l'attendent. Donc, Age of Empires 4, le pari était double. Puisqu'il fallait à la fois combler les amateurs de rétro, dans le sens, voilà, le jeu vu du dessus, stratégie un peu 2D, comme les fans l'apprécient, et en même temps, il fallait que le jeu puisse rentrer dans l'ère 2021 et plaire aussi aux amateurs de nouvelles technologies, et donc avoir notamment, peut-être, pourquoi pas, des graphismes un peu plus évolués, des mécaniques qui sont un peu plus, peut-être, poussées, parce que depuis le temps, il y a eu quand même des gros maçons qui sont passés, il y a eu la série Total War, qui a pas mal évolué aussi, et donc sur PC, voilà, il y a beaucoup de jeux de stratégie qui se battent, et il fallait vraiment qu'il y ait un nouveau souffle qui soit aussi implémenté là-dedans. Et ma foi, de ce que j'ai pu en voir, donc Age of Empires 4, on a eu accès donc à une vidéo de 25 minutes plus une interview avec les développeurs. D'ailleurs, je vous parlerai de, alors, j'en ai parlé sur Gameblog, mais je vous en parlerai aussi. On a eu droit à quelques surprises. Age of Empires 4, de ce que j'ai pu en voir, s'annonce très bon. Pourquoi ? Parce qu'ils ont justement réussi le pari. Alors je déteste cette manière de dire, mais de manier l'ancien et le nouveau de manière assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous ont pris, donc déjà, c'est un retour total au Moyen-Âge, comme c'était le cas dans Age of Empires 2. Donc voilà, là, pas de surprise pour l'époque. Mais ils ont réussi à implanter des nouvelles mécaniques, notamment en séparant le jeu en différentes ères. Puisqu'en fait, notre nation qu'on va choisir au départ va évoluer donc technologiquement. On a donc exactement 4 ères. Donc une ère qui s'appelle donc l'âge sombre. Ensuite, on va passer à l'âge sombre. En termes historiques, ça équivaut un peu à la période avant l'an 1000, donc entre l'an 500 et l'an 1000. Ensuite, on va avoir la période féodale qui va être entre l'an 1000 et l'an 1100. Ensuite, l'âge des châteaux qui va s'arrêter jusqu'en 1300. Et ensuite, ce qu'ils appellent l'âge impérial, c'est-à-dire en fait le début de la Renaissance où on va avoir accès à des unités, notamment avec l'arrivée de la poudre noire, donc des unités avec des canons, etc., pour assiéger les châteaux et les premiers mousquets. Donc déjà, rien qu'en ça, c'est plutôt pas mal, puisqu'on a une ère technologique qui est couverte, qui est assez grande. Donc on va pouvoir vraiment voir nos villes évoluer. D'autant que les villes sont assez différentes les unes des autres, puisqu'on aura accès à plusieurs civilisations. On a pu en découvrir 2 en avant-première qui n'avaient pas été dévoilées auparavant, la Chine et Delhi Sultanate, donc en gros c'est l'Inde. L'Inde médiévale, qui est hyper intéressante à voir et hyper intéressante surtout à voir évoluer, puisque c'est pas forcément des nations, enfin la Chine à la limite si, de plus en plus ces dernières années, puisque ça devient vraiment un gros marché, mais c'est vrai que l'Inde, c'est pas un pays qu'on a souvent l'occasion de voir dans les jeux vidéo, donc ça là, c'est un peu une bouffée d'air frais aussi à ce niveau là.
Moi je suis souvent avec Gandhi à Civilization.
Oui, alors c'est vrai que Civilization, c'est un des rares jeux, on va dire, qui traite de l'Inde, mais bon, Civilization, ça a pas une portée vraiment historique, enfin on peut pas avoir. On voit pas vraiment les unités, les troupes telles qu'elles étaient à l'époque. Enfin, le côté militaire de l'Inde, c'est quelque chose.
C'est la seule faction qui a des éléphants en civilisation.
Exactement. Et justement, en parlant de très très bonne transition.
Je suis là pour faire la transition.
puisqu'il y a effectivement des unités spéciales pour chacune des factions et notamment des éléphants pour l'Inde et d'autres aussi surprises dans ce type là. Mais vraiment, moi, ce que j'ai apprécié, c'est la multitude de détails qu'on peut voir au niveau des l'évolution des villes, puisqu'en fait vraiment, quand on va être dans la du Dark Age, on va vraiment avoir au début donc une église qui va être plutôt de type romane. Quand on va évoluer de période, on va passer sur une église gothique. Ensuite, on va passer à une cathédrale. Enfin, vraiment, il y a vraiment un côté hyper agréable à l'œil. Et qui se reconnaît dans tout, donc que ça soit dans l'uniforme des soldats, que dans la taille des murs, l'architecture qui va évoluer, etc. Et donc ça, c'est ouais, t'as une question, Thomas. Je vois que tu.
Tu mets ton micro. Appuie sur ton micro, Thomas. Parce que sinon, on t'entend.
Oui, pardon.
Pas.
Autant pour moi, je faisais pas semblant de parler sans son. Tu parlais de la fidélité historique justement par ouais. rapport au style des bâtiments, mais est-ce que tout ça, ça va se retrouver vis-à-vis des autres pays, enfin, est-ce qu'on va avoir la même évolution finalement avec toutes les nations en fait qui seront présentes?
Alors oui, il y a une évolution donc historique qui va être présente pour chacune des nations. Après, évidemment, ce qui fait la clé de voûte d'Age of Empire, c'est aussi le combat entre factions qui n'ont pas forcément à voir les unes entre elles. En fait, donc on peut se retrouver dans une bataille multijoueur avec la Chine contre l'Inde, la Chine contre l'Angleterre, etc. Mais le côté historique, lui, sera poussé justement dans les détails dont je parlais, plus à travers une campagne, pareil. Donc il y aura des campagnes qui ont été présentées, notamment la première campagne qui sera en fait la conquête anglo-saxonne, donc en gros la conquête de Guillaume le Conquérant dans l'Angleterre, qui sera pour le coup purement historique et qui va traiter donc d'une faction anglaise avec une faction une faction normande.
Et de la tapisserie de Bayeux.
Exactement. Et donc du coup, bah à ce niveau-là, oui, ça sera historique. Après, pour le reste, ça sera vraiment pour moi, ça sera vraiment les unités, les détails, les détails architecturaux des bâtiments qu'on va construire, etc. Mais voilà, faut pas s'attendre non plus à l'historicité dans les combats, puisque bah ce qui fait vraiment, et voilà, c'est vraiment la clé de voûte d'Age of Empires, c'est vraiment ça quoi aussi, c'est le délire de faire des combats entre deux factions qui ne sont jamais rencontrées dans l'histoire quoi. Et voilà, c'est aussi ça qui est intéressant quand on voit, je sais pas, un éléphant indien charger une troupe de phalanges anglaise. Voilà, ça apporte un peu de peps.
On voit que ça te donne le sourire en tout cas.
Ouais, en tout cas, t'as l'air d'avoir kiffé ce moment.
Oui. Ce moment. Ouais, j'aurais trouvé ça intéressant que tu sais qu'il y ait Shah Rukh Khan qui apparaît sur le champ de bataille, tu vois, qui commence à faire une danse et qui arrive, tu sais, il arrive, il surfe sur une R5 et après il met des coups d'éléphant. Enfin, tu vois, des trucs à la Bollywood, ça aurait été intéressant, je pense. Mais bon, j'ai une autre vision de l'histoire. Après, ouais. Ça, c'est, voilà. Mais dans d'autres détails qui t'ont plu par rapport à cette présentation, ouais. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, Camille?
Bah justement, les détails qui sont accordés. Alors, j'étais un peu surpris quand j'ai lu certains commentaires, que ce soit sur Gameblog ou ailleurs. Parfois, il y a certaines personnes qui disaient que le jeu n'était pas très joli. Alors, je ne sais pas si on a vu la même chose, mais moi, j'ai trouvé le jeu très fin. Vraiment, dans le gameplay que j'ai pu voir. Alors, la vidéo qu'on a vue, nous, elle n'était pas exactement semblable à celle que vous avez pu voir, vous, en mode public. Mais moi, ce que j'ai vu, c'était extrêmement fin, extrêmement détaillé. Et surtout, il y a vraiment une intelligence artistique, en fait, dedans, qui est vraiment, vraiment cool à voir. C'est-à-dire, quand on voit des images de la conquête de Guillaume le Conquérant, c'est hyper intuitif, c'est hyper, hyper réaliste dans ce qu'on va voir. Dans les paysages, etc., on reconnaît vraiment les campagnes normandes, puis les campagnes des côtes britanniques. Enfin, il y a vraiment un côté qui est vraiment recherché, quoi, en termes de topographie, en termes de géographie, et surtout, voilà, des détails qui n'étaient pas forcément présents avant. Évidemment, il y a plus de 9 ans d'écart, mais pas forcément présents même dans les jeux de stratégie en général. C'est-à-dire que, bah, voilà, quand on fait avancer nos troupes, on voit, même si on s'attarde pas dessus, on voit, je sais pas, le vent qui souffle dans les arbres, dans la cime des arbres, on voit l'herbe qui plie sous le vent, etc. En plus, il y aura un cycle jour-nuit, etc. Donc ça permet de voir différentes facettes de l'environnement. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très joli, très agréable à regarder, et surtout au niveau des animations, les animations sont hyper bien recherchées par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir dans Age of Empires, où c'était finalement des rythmes assez saccadés dans les coups d'épée, etc. Là, voilà, on a un truc d'assez viscéral, assez d'intuitif aussi, pareil, dans les mouvements reproduits par les unités. On a pu voir, je sais pas, un cavalier qui se battait justement contre des fantassins et tout, et on avait vraiment le côté réaliste, où c'est pas juste voilà, il va donner un coup d'épée en l'air et puis la personne à pied va succomber. Non, on a vraiment le côté, bah, comme on pourrait voir dans un film ou quoi, on a vraiment le cavalier qui va se voûter un peu sur son cheval et qui va faucher les ennemis au sol. Donc il y a vraiment un côté qui est hyper réaliste. Après, évidemment, ça reste du Age of Empires, donc c'est pas c'est pas un jeu Paradox Interactive, hein. Donc, ils sont pas à la recherche de l'historicité pure, mais ils ont vraiment poussé le détail au maximum. Ils ont même recruté, d'ailleurs, j'ai oublié son nom, mais ils ont recruté un spécialiste historique, justement pour que tout ce qui est toutes les représentations des unités au sol, des formations, etc., soit bah, quand même réaliste avec, bah, avec l'histoire, quoi. Donc non, il y a un beau travail qui a été fait là-dessus. Pareil, il y a une destruction dans les choses qui ont intéressé. Il y a la destruction du décor qui est plutôt pas mal. La destruction des bâtiments, la destruction des murs d'enceinte qui est hyper important, puisque évidemment, bah, le siège de château, ça va être quelque chose qui est capital dans Age of Empires. C'est déjà le cas dans Age of Empires 2, mais là, le vice est poussé encore un peu plus loin. Et puis, dans les petites surprises, on a eu l'occasion de voir qu'il y aurait effectivement des batailles navales. Vous avez pu voir un mini-extrait à la toute fin de la présentation de quelques secondes. On voyait une flotte chinoise se diriger vers une côte. Et donc, voilà, on aura des batailles navales. Alors, même si le Moyen-Âge, ce n'est pas forcément la période la plus intéressante pour les batailles navales, il y en a eu des très intéressantes, mais ce n'est pas forcément... Quand on pense aux batailles navales, on pense surtout au XVIIe, au XVIIIe et au XIXe siècle, pas forcément au Moyen-Âge, mais ça reste quelque chose d'assez intéressant. Surtout qu'il y a des factions plus tard qui seront annoncées, comme l'Empire byzantin, qui pourront justement permettre d'avoir des subtilités au niveau naval, comme puisque... Les Byzantins, on se rappellera notamment qu'ils étaient les premiers à avoir installé le feu grégois, qui est en fait l'équivalent d'un lance-flamme en fait sur un bateau. Donc voilà, en termes de stratégie, ça peut être plutôt intéressant. Voilà, donc il y a plein de choses qui sont sympathiques comme ça. Et puis surtout, moi, ce que j'ai aimé, c'est vraiment le mélange culturel, quoi. C'est-à-dire quand tu joues la Chine, t'as des bonus culturels qui sont hyper intéressants. Tu vas pouvoir installer des rizières, et donc tu vas pouvoir voir le paysage de ta ville, le paysage de ta campagne qui va évoluer de manière différente que le joueur qui va jouer l'Inde ou le joueur qui va jouer l'Angleterre, quoi. Et ça, c'est plutôt agréable à voir, quoi. Donc voilà, le jeu, sinon, il est prévu donc pour l'automne 2021, comme tu l'as précisé. Et dans les petites surprises, j'en ai parlé sur Gameblog il y a quelques jours, on nous a teasé quand même un épisode d'Age of Mythology qui est... voilà, c'est difficile de passer à côté en parlant d'Age of Empires, puisque Age of Mythology est quand même le spin-off, le meilleur spin-off d'Age of Empires, et même le seul, et finalement un des meilleurs jeux de stratégie, tout le monde en conviendra, des années 2000 et peut-être même de la décennie 2000, puisque vraiment c'est un jeu qui a marqué les esprits, les joueurs PC et même les joueurs PC qui n'étaient pas forcément très adeptes de jeux stratégie.
Donc voilà, c'est pour ça qu'il est ressorti en version remasterisée
exactement,
en 2014, ouais. Si je ne m'abuse.
Ouais, une extended edition comme ils l'avaient appelé, où en gros voilà, c'était un jeu qui était un peu, qu'ils avaient fait un petit lifting graphique, mais c'était pas forcément voilà, c'était pas forcément extraordinaire, mais c'était sympathique, quoi. Donc là, ils nous ont teasé, voilà, que le jeu était, il y avait un jeu qui était vraiment dans les esprits, qu'ils avaient pris à 100% compte des demandes des joueurs, de la communauté, et que vraiment que c'était quelque chose, voilà, on a compris qu'ils étaient dans les tuyaux, quoi. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle aussi pour la stratégie en général sur PC, quoi.
Très bien. Bon, bah, donc, comme tu l'as dit, ce sera pour la fin d'année, pour l'automne, et on surveillera ça avec attention, enfin, surtout toi, j'imagine, puisque c'est plutôt ta cam, ce genre,
Alors, genre
de stratégie.
À mon avis, je suis pas le seul à le suivre, parce que, apparemment, la prévue a pas mal cartonné sur Gameblog, donc je pense que.
Ouais, c'est vrai.
Il y a beaucoup de gens qui vont l'attendre, qui vont l'attendre de pied ferme, quoi.
Ouais, bah, ça prouve que le PC n'est pas oublié sur Gameblog. Et ça prouve que le PC intéresse des gens. Non, parce que, fut une époque, c'était pas forcément évident. Donc, je préfère qu'on mette les choses au point. Le thème numéro 2 de la semaine, merci Camille, ce sera Outriders et Oddworld Soulstorm, les tests de la semaine. Donc, Outriders, Alix.
Oui.
C'est toi qui as pu faire le test, donc, parce que Johnny One, une fois qu'il avait fait la démo, il nous a dit « Ah non, non, surtout pas, je veux pas ça, oubliez-moi », il est allé s'enterrer quelque part, on n'arrivait plus à l'appeler.
Bah, je pense qu'il y a deux personnes dans la rédac qui n'étaient pas trop chauds pour faire Outriders, hein. Je pense qu'il y avait Johnny One, et vu les premiers retours de Camille lorsqu'il avait vu le jeu, je suis pas certain qu'il ait envie de se jeter dessus non plus, quoi.
Non, bah non, c'était effectivement le cas. Toi, tu as courageusement relevé le défi.
Ouais, parce que j'avais eu des bons échos autour. Donc, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, aller.
Et bah voilà, donc tu vas nous en parler un tout petit peu donc, de ce Outriders, qui est donc un TPS de la part de People Can Fly, édité par Square Enix, People Can Fly, à qui on doit l'excellent Bulletstorm, mais qui, depuis Bulletstorm, ils sont un petit peu à droite à gauche, on ne sait pas trop. Et alors, avec ce jeu-là, dont on avait déjà parlé, est-ce qu'ils arrivent à nous sortir un TPS multi-online, on va dire, au moins intéressant?
Alors, au moins intéressant, oui. Est-ce qu'il est... est-ce que c'est par contre un TPS important dans l'histoire du genre? Pas vraiment, parce que en réalité le jeu a plein de qualités, mais il a aussi pas mal de gros défauts. Alors j'ai essayé au maximum lorsque je démarrais le test de pas avoir en tête les commentaires de nos collègues, en me disant non, mais je vais me faire mon propre avis. Et puis il y avait déjà quelques retours. Ça fait rire Thomas, apparemment. Quelques retours positifs autour du jeu. Moi, j'ai démarré le jeu en me disant, bah tiens, je sais pas trop à quoi m'attendre. Et je vais quand même un petit peu rappeler le pitch d'Outriders. On est la Terre, on est dans une période avancée. Hein, c'est de la SF, évidemment. La Terre est dévastée. Alors, comme d'habitude, l'histoire est pas forcément hyper originale. Climat, pollution, puis gaspillage de l'homme, c'est un petit peu, puis catastrophe naturelle, c'est un petit peu mis la Terre en PLS. Bref, on peut plus vivre sur la planète bleue. Il faut trouver un autre territoire pour pouvoir vivre et évoluer. Donc, une équipe de soldats d'élite appelés Outriders, qui sont censés un petit peu sécuriser une zone non habitable au départ, partent sur la planète Enoch. Donc ils sont dans un grand vaisseau.
C'est l'espèce marine, quoi.
Voilà, exactement, c'est l'espèce marine. Ils sont dans un grand vaisseau, ils atterrissent sur Enoch, ils sont censés un petit peu baliser le terrain. Et là, ils découvrent ce qu'on appelle une anomalie, une sorte de grosse tempête, en fait, qui déclenche énormément de catastrophes autour d'elle. En gros, soit elle tue, soit elle t'altère, c'est-à-dire qu'elle change un petit peu ton patrimoine génétique et te dote de pouvoirs assez surprenants. Donc en fait, toute cette partie-là qui t'a un petit peu expliqué, en soi, c'est un gros tuto. Un gros tuto assez mal foutu, je trouve, mais c'est un gros tuto quand même, avec déjà, en quelques minutes, tu vois tous les défauts du jeu. C'est-à-dire que l'histoire est ok tiers, je trouve. Bon, après, c'est de la SF, hein. C'est clairement, si on n'est pas fan de science-fiction, on n'accroche pas dès le départ. Faut être réaliste. Par contre, c'est énormément de cinématiques qui n'ont pas lieu d'être, des petites coupures. Typiquement, exemple, tu crées ton propre avatar, donc qui est un Outriders. Donc déjà, là-dessus, j'ai fait rapide. La personnalisation est ok, mais comparé à d'autres jeux où tu peux vraiment faire ton avatar de A à Z, tu sens que on a proposé quelque chose d'assez sommaire. Je trouve qu'il y a, là-dessus, j'avais quelques petites critiques. Je pense qu'ils auraient pu pousser le truc un peu plus loin, mais bon, en soi, c'est pas grave, c'est ok. Et derrière, chaque discussion que tu as amène une sorte de cinématique, mais c'est hyper mal fichu. C'est-à-dire que c'est pas fluide. T'as même un petit écran noir à chaque fois qui vient bien cut l'action.
On avait ça pendant la démo. Genre, voilà. ton perso va traverser un pont, écran noir, tu le vois sauter par-dessus,
c'est ça, exactement.
Par-dessus le pont effondré, écran noir, et tu peux à nouveau jouer.
Voilà,
c'est quand même le truc qui coupe tout, quoi, qui te coupe complètement la chic et l'envie de continuer à jouer.
Alors, surtout, on connaît comme ça il y a deux générations, quoi. C'est terminé, ça ne se fait plus, ce genre de choses.
Alors je rappelle que je l'ai fait sur PS5 et du coup je me suis dit en fait si j'ai déjà ces petits soucis de, parce que genre on aurait pu se dire version plus optimisée, peut-être que tu gagnes en fluidité, etc. Non, c'est vraiment tu t'approches de quelqu'un, petit fond noir, discussion, enfin cinématique, fond noir, et tu reprends la manette et tu reprends le pad et tu vas faire un petit peu ta vie. Bref, tout se passe mal sur Enoch, l'anomalie fait d'énormes dégâts, les colons, donc les Outriders qui sont présents, décident d'envoyer un message sur Terre pour que les gens ne viennent pas. Finalement, ça se passe pas comme prévu, notre héros est cryostasé, et lorsqu'il se réveille plusieurs années plus tard, en fait, les Terriens, les autres colons sont venus, l'anomalie a un petit peu divisé les forces, donc il y a ceux qui s'entretuent, ceux qui veulent essayer de survivre, et notre but à nous, c'est déjà d'une part d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé sur Enoch, comprendre ce qu'est l'anomalie, et ensuite essayer peut-être de voir s'il y a d'autres poteaux Outriders qui ont réussi à survivre. Évidemment, je vais pas vous donner le fin fond de l'histoire, sinon je vais vous spoil pour ceux qui aimeraient faire le jeu quand même. Mais voilà, en tout cas, à ce niveau-là, le scénario est plutôt pas mal. On se retrouve sur une base avec différentes missions à effectuer, beaucoup de choses à faire, il y a toujours des quêtes
secondaires. C'est un Destiny que tu es en train de me décrire.
Exactement. En fait, tu as ce côté TPS RPG dans lequel tu vas déjà looter un petit peu tout ce que tu vas pouvoir trouver, aussi bien sur le champ de bataille que sur le lieu que tu vas découvrir. Après, toujours de la même manière, on est quand même sur un jeu assez linéaire. C'est pas du tout un monde ouvert, c'est-à-dire que tu es un petit peu sur des sortes de tunnels. Alors, des fois, tu as des petits embranchements, mais embranchements, c'est juste pour t'amener un petit coffre pour avoir du loot ou des recharges de munitions. Globalement, le jeu t'emmène d'un point A à un point B. Et le but à chaque fois, c'est évidemment de récupérer du loot pour améliorer ton équipement, améliorer ton personnage. Et derrière, il y a un bestiaire que tu vas affronter qui est malheureusement assez souvent toujours le même, qui apparaît toujours dans le même ordre, dans une sorte de combat en arène. En fait, t'arrives, t'as une grande pièce, tu vois des pylônes, des murs et des cartons, t'as compris qu'il fallait te couvrir et que ça allait mitrailler de partout. Donc, tu parlais de Destiny. Là, dans ce que je te décris, tu retrouves un peu l'ambiance à la Gears of War. Et bah, en fait, ce qui est assez gênant dans le jeu, c'est que tu... Et moi, je m'en suis rendu compte assez rapidement. Moi, je pensais typiquement que Outriders, c'était un pur jeu de cover. Un cover shooter. Parce que c'est vrai que les premiers niveaux que tu fais, tu dois vraiment te planquer, etc. Tu retrouves un peu ce tir, tu sais, où tu vises pas forcément, tu tires un peu à l'aveugle. Moi, je regrette le fait que tu puisses pas vraiment poser une arme, tu vois, en appui comme à la Rainbow Six sur un mur, etc. Mais t'avais quand même ce côté où tu pouvais tirer un petit peu à l'aveugle. Et en fait, rapidement, je me rends compte que ben, si tu restes trop à couvert, et ben en fait tu vas vite te faire agresser par la vague d'ennemis et en fait tu te retrouves vite en difficulté. Je rappelle que la grosse majorité de mon test, je l'ai fait en solo. Quand je l'ai fait en multi, j'ai vraiment compris l'ADN du jeu. C'est vrai qu'en solo, il y a ce côté où le côté cover shooter a encore un petit peu d'intérêt. Joueur, mais en réalité, c'est un gameplay hyper agressif. Je m'explique pourquoi. En fait, tu as donc ta barre de PV, donc qui descend au fur et à mesure des balles et des explosions que tu vas prendre. Si tu veux que ta barre de PV remonte, donc si tu as un peu d'auto-régénération, c'est pas comme dans les autres jeux, il suffit de te planquer et d'attendre. Non. C'est-à-dire qu'il faut absolument viser, tuer des ennemis, presque faire des combos, tu sais, faire plusieurs tirs à la tête d'affilée, faire beaucoup d'actions, roulades, balancer des grenades, enfin bref, faut être assez efficace et agressif pour que ta barre de PV remonte. En gros, plus tu bats d'ennemis, plus tu récupères de vie. Donc en fait, rester planqué, un, tu risques de manquer rapidement de munitions. Deux, bah, si jamais tu te fais trop shooter par des ennemis trop puissants, tu vas perdre trop de PV et en réalité, la game, elle est perdue. Et de trois, il faut impérativement avoir un gameplay assez agressif, sinon tu te retrouves vite dans la mouise. Donc, et ça, en réalité, en solo, tu vas mettre beaucoup de temps à t'en rendre compte au fur et à mesure des missions, je trouve. Par contre, en multi, c'est flagrant. C'est-à-dire que tu vas jouer... Alors, généralement, tu joues en multi. Moi, j'ai pas joué avec des collègues. Hein. J'ai joué avec des gens que je ne connaissais pas. Donc, évidemment, il y a toujours un ou deux gens pour faire n'importe quoi. Mais en réalité, ils faisaient pas n'importe quoi. C'est que t'as pas d'autre solution que de jouer comme ça, quoi. Et derrière, t'as les pouvoirs d'altération qui arrivent. Donc, à savoir, lorsque tu sors de ta cryostase, ton altération s'éveille et là tu as différentes classes à choisir, différents pouvoirs, hein. Tu peux contrôler le temps, contrôler le feu. Moi notamment j'ai choisi le pyromage, hein, celui qui me faisait le plus plaisir, voilà. Jouer avec des flammes, j'adore. Donc tu peux dresser un mur de feu, balancer ce qu'on appelle une sorte de grenade enflammée où en fait tu envoies une boule de feu sous le sol et qui explose au contact d'un ennemi. Voilà, enfin tu peux même donner un up de flamme à tes en fait, pendant quelques temps, tu vas mettre ta main enflammée sur ton fusil ou l'arme que tu as en ta possession et tu vas tirer des balles enflammées provoquant énormément de dégâts. Donc, en réalité, en fait, pendant très longtemps dans le jeu, je me suis dit, ouais, c'est cool, c'est un bon défouloir, prise en main archi rapide. C'est-à-dire que tu n'as jamais fait un TPS de ta vie, tu sauras te débrouiller sur Outriders. C'est pas de... Le jeu, en termes de beauté graphique, tout ce qui est paysage, horizon, rien à dire. Tout ce qui est level design, et game design lorsque tu affrontes des ennemis, c'est toujours le même. Donc je trouve que là-dessus il n'y a pas énormément de d'idées ou de variétés dans la tête du studio en charge du jeu. Tout n'est pas toujours très beau, mais c'est quand même relativement assez mignon à regarder. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est vraiment trop rapidement le côté répétitif. C'est-à-dire que c'est des vagues d'ennemis dans le même ordre, et le problème c'est que même la mise en scène de certains ennemis, genre ceux qui viennent avec un machine gun ou les gros juggernauts, c'est franchement mal foutu. En fait, t'as l'impression qu'il y a des très bonnes idées de mise en scène à Outriders. Les mecs se sont dit, oh, on n'a pas le temps, les mecs, on fait ça comme ça, ça va passer, c'est bon, quoi, ils vont pas râler. Et en fait, tu râles parce que si t'as joué un peu à Gears, Destiny ou même Borderlands, en fait, tout ce qui est proposé en termes de mise en scène dans Outriders, c'est en dessous de ces trois titres-là. Et moi, je trouve ça un petit peu problématique parce qu'aujourd'hui, oui, Thomas, je vois que tu as une remarque, mais tout ce qui est proposé aujourd'hui, c'est au-dessus et c'est pas normal. Si tu arrives derrière, l'idée, c'est un peu d'essayer de te positionner. Soit tu es l'un, soit tu es l'autre, mais tu peux pas être ni l'un ni l'autre. Déjà, c'est un peu le problème de Outriders et encore plus, être en dessous en termes de mise en scène.
Bah, t'as un petit peu répondu à la question, mais moi je me demandais du coup qu'est-ce qu'il a pour lui par rapport à la concurrence qui est pléthorique dans le genre aujourd'hui. Tu vois, pourquoi est-ce que tu passerais du temps du coup sur Outriders plus que sur un autre? Est-ce que c'est l'univers? Enfin voilà, qu'est-ce qu'il a pour lui finalement?
Bah, pour moi, l'univers qui est proposé est pas mal. Je sais que ça a divisé énormément de gens et qu'il y a des gens qui disent « Non, c'est nul, c'est déjà vu et revu. » Mais j'insiste, en fait, on va essayer de mettre de côté les problèmes de mise en scène du scénario. Le scénario, l'histoire, elle est vraiment OK. Tu sens que voilà, il y a un lore, il y a une volonté de développer quelque chose autour. Moi, perso, c'est un jeu, malgré tous les défauts, que j'ai pas lâché de suite parce que bah, j'avais envie d'en savoir plus. C'est hyper mal raconté, mais ça a quand même l'atout d'avoir une histoire assez intéressante. Puis moi, la SF, ça me parle. J'étais clairement client. Le côté rapide, prise en main, qui est cool. L'aspect un petit peu challenge, parce qu'en réalité, tu as ce qu'on appelle un niveau de difficulté qui correspond à un niveau de monde. En fait, tu sélectionnes le niveau de monde dans lequel tu veux évoluer. Et en fonction de ce niveau-là, le loot que tu auras, la récompense, vont être hautes. Donc, plus tu acceptes de jouer à un niveau de difficulté élevé, plus tu es récompensé. Donc, évidemment, faut pouvoir l'encaisser in-game. Ça c'est notre histoire, et ça c'est bien parce que je me dis, moi par exemple, j'aime bien les TPS, mais je suis pas un expert des TPS, je suis pas un gros joueur dans le sens où j'ai pas un énorme niveau dessus. C'est très bien pour moi pour commencer, et puis une fois que je suis en confiance, je peux décider d'augmenter mon niveau de difficulté. Les combats de boss valent le coup. Je pense notamment à un petit combat, un petit face-to-face avec une araignée au sommet d'un volcan qui est plutôt pas mal. Donc en fait, les combats de boss sont cool parce qu'ils ont l'art d'être un petit peu originaux. Quand tu te bats contre un autre altéré, ça fait des combats parce que clairement, encore une fois, lorsque tu joues tout seul, tu as tes pouvoirs et que tu commences à bien comprendre comment les utiliser, globalement, tu vas pas succomber facilement comme ça à une vague d'ennemis, quoi. Par contre, c'est là où quand tu affrontes d'autres altérés, généralement, c'est des capitaines de factions différentes qui ont d'autres pouvoirs, tu as un timing, tu as tout un processus pour pouvoir utiliser tes pouvoirs au bon moment, les toucher au bon moment, enfin voilà. Encore une fois, les gens diront « Ouais, c'est pas hyper original, on a vu ça ailleurs. » Mais là, la façon dont c'est amené, c'est plutôt bien fait. Puis après, il y a quand même une grosse rejouabilité, même si tu termines le jeu en termes d'endgame, t'as plein d'expéditions pour améliorer ton loot, améliorer ton niveau de personnage. Donc voilà, en solo, il y a quand même pas mal de dizaines d'heures à faire. Le jeu, enfin, en soi, tout dépend de l'expérience que tu vas avoir. Si tu veux avoir le sentiment de quand même jouer un cover shooter, moi j'aurais presque envie de conseiller aux gens de le faire tout seul. Le challenge peut être un petit peu trop relevé à certains endroits, parce que tu sens qu'au niveau de la difficulté, bah, le jeu a quand même été pensé très multi et pas forcément en solo, et ça tu le ressens sur certaines phases de jeu. Après, en solo, ben, c'est plus du tout un cover shooter, c'est vraiment, tu prends les armes, tu te connectes, et tu vas bourriner, balancer du pouvoir, level up. Évidemment, tu level up plus vite à plusieurs que tout seul. Ça, c'est pour ça que je dis que le jeu vraiment t'emmène vers une certaine direction. Et, juste pour finir sur ce que j'allais dire sur Outriders, bah, je vous cache pas, quand j'ai commencé à faire le test, j'avais déjà vu pas mal d'infos qui avaient remonté, de news, donc on avait notamment traité en plus sur Gameblog, qui parlait de problèmes de mise à jour, de problèmes de crash, etc., etc., qu'un patch allait arriver. Moi, au départ, je vous cache pas, les amis, j'ai rien eu de tout ça. Moi, je jouais tranquillement, je me connectais au jeu, parce qu'il faut être connecté en ligne pour pouvoir jouer. Pas de soucis, je joue, pas de problème. Première game en multi que je trouve, la première. On termine la game. Crash. Je dis, ah ok, d'accord, sympa. Derrière, deux heures, hein, pour pouvoir me reconnecter juste pour jouer. C'est-à-dire que j'étais à deux doigts de supprimer le jeu et de le regain derrière, quoi, quand même. Donc c'est un peu problématique. Quand j'y retourne, nouvelle game en multi, en pleine game, crash de nouveau. Et encore, je vous passe le problème du ping. C'est-à-dire que tu joues. Bah, typiquement, j'ai un ennemi qui est à 3 mètres, puis d'un seul coup, je le vois plus, mais il est derrière moi. Ok, d'accord. David Copperfield. Donc, ouais, non, c'était.
Ouais, et encore, toi, t'as, après les crashs, t'allais réinstaller le jeu, mais il y en a, ils l'auraient pas fait. Hein.
Ouais, c'est ça.
Tu crashes, t'achètes un jeu, tu vois que le truc il crash, tu te demandes un remboursement, quoi.
Exactement.
Donc, tu vas pas t'emmerder à essayer de réinstaller ton jeu, quoi.
Moi, le crash, j'en ai eu deux, donc je me suis dit, bon, ok. Par contre, ce qui m'a vraiment gêné, c'est que dès que je joue en multi, le ping, c'est pas possible, quoi. Même, t'es là, à un moment donné, je m'en rappelle, sur un niveau un peu ouvert, je cours, puis la seconde d'après, je suis en haut d'un muret, pourquoi? pourquoi je suis là-haut? Puis la seconde d'après, je suis de nouveau à l'écran, on me voit en train de courir, enfin, c'est pas jouable, donc ça c'est...
Ben, ça pour un jeu multi, c'est un peu chiant quand même.
Ça c'est le plus gros poignard du jeu, on peut parler du fait que c'est pas vraiment un Gears-like, c'est pas vraiment un Destiny-like, c'est pas un Borderlands-like, c'est un peu des trois mélangés, mais sans tirer vraiment le meilleur des trois au final. C'est moi ce qui me dérange le plus. C'est ces problèmes de ping et les problèmes de crash. C'est bon, je sais que ça va être résolu ou ça en passe d'être résolu, Mais c'est problématique encore plus aujourd'hui, maintenant, que les gens sont pas forcément, ont la possibilité de sortir de chez eux et qui doivent rester un peu à la maison pour jouer. Tu prends Outriders, si tu veux jouer en multi, c'est un peu pénible, alors que c'est quand même c'est censé être l'atout principal du jeu. C'est vrai que dans mon test, je l'ai pas forcément appuyé parce que j'avais envie de parler d'autre chose. C'est vrai qu'Outriders, aujourd'hui, quand on en parle beaucoup de ça. Donc je me suis dit, il faut peut-être un peu expliquer aux gens ce qu'il y a dedans et leur dire aussi, est-ce que Johnny Wan et Camille, ce qu'ils ont dit il y a plusieurs mois de ça, est-ce que ça a un petit peu changé ou est-ce que c'est toujours la même chose? J'ai retrouvé beaucoup d'éléments négatifs que tu avais soulignés dans tes impressions, Camille. Après, ils ont un peu bossé leur sujet, donc c'est un petit peu mieux, même beaucoup mieux, j'ai envie de dire, que la version que t'as dû avoir entre les mains à l'époque. Bref, pour résumer, c'est un bon jeu. En vrai, c'est un bon jeu. Moi, j'ai passé un bon moment dessus, mais c'est pas le TPS de l'année, c'est pas forcément le jeu du printemps. Tu sens qu'il y avait tout pour faire quelque chose d'assez fou et qu'ils sont un peu passés à côté, quoi. Voilà.
D'accord, mais après tout est possible. Hein. On sait que les jeux peuvent être patchés, peuvent ont droit parfois à un entretien ensuite qui permet d'améliorer certaines choses. Peut-être que Outriders a bénéficié de ça, déjà qu'il a un assez bon succès, un assez bon départ côté joueur, notamment parce qu'il est sur le Game Pass depuis le premier jour. Donc il y a des chances que si jamais il y a une communauté qui s'est formée, elle reste assez fidèle si on nous promet aussi un endgame, visiblement qui a l'air assez réussi et peut-être des DLC par la suite. On verra en tout cas. Mais merci, Alix, pour tes impressions sur ce jeu qui vient de sortir, donc qui s'appelle Outriders. Et j'allais dire une chose, c'est que tu lui as mis la note 6 sur 10.
Ouais.
Voilà, 6 sur 10, donc un jeu satisfaisant, mais pas plus. On va passer au deuxième test de la semaine. Encore un jeu que vous pouvez avoir sans avoir rien à payer de plus si vous êtes abonné à un service. En l'occurrence, là, c'est le PlayStation Plus. Et c'est si vous avez une PS5. Ça fait beaucoup de paramètres quand même qui sont pas forcément faciles à obtenir. Néanmoins, si vous avez une PS5 et que vous êtes abonné PlayStation Plus, vous pouvez profiter de Oddworld Soulstorm. Vous pouvez aussi l'acheter sur les autres plateformes, sur PC en l'occurrence. Et si vous êtes un gros fan d'Abe, il y a quand même des chances que ça vous intéresse. Alors, Abe's Odyssey, rappelons quand même ce qu'est Abe's Odyssey. C'est un jeu qui est sorti en 97. Ça fait déjà un petit paquet d'années, donc. Est-ce que j'ai bien dit 97, c'est ça, 97 ou 98? Ça y est, j'ai déjà oublié en quelle année il était sorti. Bref, il est sorti sur PlayStation 1 il y a plus de 20 ans maintenant. Et c'était un des gros jeux de l'époque, un jeu de plateforme et de puzzle dans lequel vous avanciez pour libérer vos congénères, les Mudokons, donc des bestioles toutes vertes, un peu bizarres, qui étaient esclaves d'une sale race qui s'appelle les Glucones et qui esclavagisait donc votre peuple. Il y avait un message évidemment derrière, un message à la fois écologique, à la fois politique derrière ça. Et il y a eu plusieurs jeux faits par la même société qui s'appelle donc Oddworld Inhabitants, qui a été fondée par Lorne Lanning et j'ai oublié évidemment le nom de sa comparse qui était plus dans le financier. Bref, Lorne Lanning avait une vision. Il a fait plusieurs jeux dans cet univers, l'univers d'Oddworld, donc Abe's Odyssey, l'Exode d'Abe qui est paru un an après, puis ensuite Munch Odyssey qui était assez spécial et La Fureur de l'étranger qui a été réédité il y a pas très longtemps. Et tout cet univers fait un truc qui est très bizarre visuellement, très bizarre au niveau de l'ambiance, mais qui fonctionne vraiment magnifiquement bien. Et là, Oddworld Soulstorm, en fait, c'est une réécriture de l'Exode d'Abe, donc dont je vous ai parlé, qui est sorti un an après sur PlayStation, qui était plus une extension de l'Odyssée d'Abe, qui lui a été remaké en 2014. J'espère que vous suivez bien. Bref, Soulstorm, donc, c'est cette suite que Lorne Lanning voulait mettre en place depuis toujours, mais qui n'a pas eu le temps vraiment d'être pondu comme il le voulait. Cette fois, il a eu le temps. Ça fait quand même quelques années que Soulstorm a été annoncé. Et première bonne nouvelle, ce n'est pas un copier-coller de New and Tasty, à savoir qu'on garde la même structure. Vous êtes toujours Abe, qui va aller, qui va traverser des niveaux les uns après les autres, des niveaux en 2D ou 2,5D, parce que là, on a des décors, enfin, tout est en 3D et la représentation est en 2D, mais il y a quand même des passages où on voit les arrière-plans et les décors changer au gré des mouvements de caméra, ce qui d'ailleurs renforce parfois l'impression d'être tout petit ou le sentiment vraiment d'avoir une tâche très très compliquée par rapport à ce qui va se passer. Vous traversez des niveaux qui sont de plus en plus grands et dans lesquels donc vous allez devoir libérer vos congénères, les Mudokons, et ça va passer toujours par les mêmes choses, c'est-à-dire essayer d'avancer à pas feutrer pour ne pas réveiller les gars des Sleagues qui sont aux alentours, essayer de les piéger parfois, de les posséder aussi, puisque Abe dispose de ce pouvoir d'envoûtement qui lui permet d'une part d'ouvrir des portails qui vont permettre à ses copains de s'enfuir, mais aussi eh bien, de posséder des ennemis et de profiter un petit peu de leur mitraillette, de leur possibilité de vol ou d'accès à d'autres interrupteurs auxquels ils n'avaient pas accès. Il y a tout un tas de choses comme ça qui s'imbriquent pour essayer de faire un jeu un peu réflexion, un peu plateforme aussi. Plateforme qui va un peu mieux, je trouve, par rapport aux jeux originaux, dans le sens où il y a un double saut. Cette fois, alors ça reste un peu sec, mais c'est quand même autre chose pour pouvoir se balader tranquillement dans les niveaux qui sont pour la plupart assez gigantesques, sans être des labyrinthes, heureusement. Et donc, vous avez des tas de nouveautés qui sont apparues. Quand je dis des tas de nouveautés, en fait, vous avez maintenant un inventaire. Vous avez des objets que vous allez ramasser. Vous allez looter des trucs sur les slicks que vous allez pouvoir assommer. Des tas de trucs comme ça, des bouts d'élastique, etc., qui vont arriver. Au départ, ça ne vous sert pas à grand-chose. Vous dites, qu'est-ce qui se passe? Puis après, vous avez des mines que vous pouvez commencer à lancer, des cailloux que vous pouvez mettre dans la tête de vos ennemis pour faire diversion, des fioles d'eau. Et puis, ça commence à s'étoffer. Et au final, vous allez peut-être vous retrouver avec un lance-flamme même que vous allez pouvoir fabriquer. Et donc, plein de choses comme ça, plein d'interactions qui se créent en fait et que vous allez même vous-même créer pour essayer de passer des situations parfois pas très évidentes. Il y a 1400, un peu plus de 1400 Mudokons à sauver cette fois. Alors vous n'allez pas tous les sauver en les ayant dans votre dos et en les guidant les uns après les autres en disant « Salut, suis-moi », etc. Non, là il va y avoir en fait des salves par moment, des éléments un peu, enfin des sections un peu tower defense, comme on me l'a fait remarquer dans les commentaires du test, où en fait vous avez Abe qui se retrouve au milieu d'une espèce d'arène avec des sligues, donc des ennemis qui vont arriver pour essayer de canarder tous les Mudokons qui montent à l'arrière de l'écran, des centaines de Mudokons qu'il faudra essayer de sauver. Et c'est à ces moments-là, d'ailleurs, ça fait partie des phases un peu différentes du jeu. Et donc, ça prouve qu'il y a beaucoup plus, il y a une ampleur, une échelle un peu plus importante qu'auparavant. Vous avez toujours, évidemment, ces moments où vous allez sauver des petites troupes de Mudokons. Et là, ça commence à devenir un petit peu le début des emmerdes parce qu'ils sont parfaitement stupides. Alors, c'est un des problèmes du jeu, c'est qu'il y a une finition qui laisse à désirer. Donc, ça commence par les Mudokons qui vont vous suivre. Il y a plusieurs possibilités de passer, je vous le disais, des gardes qui peuvent vous empêcher de tourner en rond. Ces possibilités, c'est de passer doucement, de se mettre en boule, derrière des murets, ou de passer dans des nuages de fumée, ou par moment, et c'est là que c'est le plus délicat, de vous planquer dans des casiers en fer, les casiers en fer que vous pouvez fouiller pour récupérer du loot. Alors, par moment, vous avez 5-6 Mudokons derrière vous, et vous faites la manip pour vous planquer dans les casiers en fer, sauf que eux, qui sont censés vous suivre, il y en a 2-3 qui y vont, et les autres, ils restent sur place, et ils ne bougent pas, et ils se font canarder. Et ça, c'est qu'un début. En fait, après, vous avez aussi... normalement, vous avez la possibilité de leur demander d'être agressif, vous leur confiez des mines ou des cocktails Molotov pour qu'ils puissent eux aussi réagir dès qu'ils voient un ennemi. Et il y en a, c'est pareil, là, ils ne bougent pas. Et donc, vous vous retrouvez dans des situations plus compliquées que prévu parce que l'IA ne fonctionne pas, parce qu'il y a des scripts qui ne vont pas s'enclencher. Il y a des moments... Enfin, moi, j'ai été obligé de recommencer une section entière parce que y a un piège qui n'avait pas voulu se désactiver au moment où je sauvais des ouvriers. Des ouvriers qui, eux, quand ils s'affairaient, ils activaient les pièges et les pièges continuaient à tourner. Là, ça fait que je ne pouvais pas. Parce que le système de sauvegarde est toujours le même, c'est-à-dire que c'est des checkpoints, vous y arrivez une fois, et une fois que vous y êtes arrivé, bah, vous ne pouvez plus revenir en arrière, vous ne pouvez plus le retoucher, comme ça peut être le cas dans d'autres jeux de plateforme, vous pouvez retoucher le truc et ça vous reprend en votre état au moment où vous le touchez, là ce n'est pas le cas. Là, c'est vous le touchez une fois et c'est fini. Du coup, ça oblige à revenir en arrière et à refaire le niveau complètement, ce qui est un peu pénible, il faut le dire, pour un jeu comme ça. D'autant que ça peut arriver aussi à d'autres moments où c'est encore plus pénible, parce que je vais vous citer le niveau du train, qui est censé être un moment, on va dire, hyper jouissif du jeu. Vraiment, c'est une remontée de train où il faut sauver des minocons, certains qui sont cachés dans des espaces qui sont par lesquels on accède en dessous, en fait, après avoir tiré dessus en ayant possédé un slick volant. Bref, un truc qui est censé être vachement bien, avec à la fin un boss même, qui va vous canarder, vous tirer dessus, et vous allez devoir ruser un petit peu pour essayer de le défaire. Toute cette séquence-là, en fait, elle est gangrénée par des problèmes de Abe qui n'attrape pas les barres sur lesquelles il peut se suspendre. Et il faut, encore une fois, il faut avoir beaucoup de chance. Au bout de la 30e fois où vous voyez qu'il ne s'accroche pas, vous vous dites là, j'en ai un peu marre. Donc, c'est coup de peau si vous y arrivez à les enchaîner en plus, parce que ça peut être genre vous avez réussi à en faire la première et les quatre autres. Bah, c'est le même bordel. Donc là, ça, c'est un gros problème. Et comme je disais, ce boss a aussi un autre souci, c'est que le timing qui est réservé pour réussir à lancer l'objet qui va vous permettre de le passer, il est absolument infernal. C'est-à-dire que vous avez une fenêtre de peut-être d'une demi-seconde pour réussir à vous trouver dans la bonne position pour lancer le bon objet au bon moment, au bon endroit. C'est beaucoup trop mal équilibré, et ça peut revenir d'ailleurs à un moment à la fin, la dernière séquence aussi a quelques soucis au niveau de l'équilibre, même si bon, si vous êtes un peu rapide et que vous visez bien, normalement vous vous en sortez. Si vous êtes fait aussi votre petit stock d'objets à lancer, donc c'est plein de choses comme ça qui viennent contrebalancer un cœur énorme. Le jeu il est magnifique à regarder, il est magnifique à jouer. Vraiment, vous réfléchissez, vous aimez. C'est vraiment plaisant d'avoir un platformer dans lequel on réfléchit bien comme ça, un truc dans lequel on peut expérimenter des choses et ça marche. Moi, je sais que je suis un gros sadique, par exemple, et que j'aimais bien dans les phases de tower defense, profiter du fait que j'avais des bières inflammables et une petite fusée éclairante, pour piéger tout simplement les arrivées d'ennemis et pouvoir me concentrer sur d'autres endroits du truc, ce qui est pas forcément génial, hein, je reconnais, j'aurais peut-être dû jouer avec mes réflexes, mais j'étais content de pouvoir en profiter. Et il y a plein de choses vraiment géniales. Les cinématiques aussi sont d'une beauté mais phénoménale. C'est impossible de pas s'attacher à Abe et à ses copains pendant tout cet exode et de pas détester complètement encore plus qu'avant les glucones et les méchants dirigeants des firmes qui sont encore une fois dénoncés. Alors le propos qui est dénoncé cette fois après avoir dénoncé l'esclavagisme et le fait que on allait se retrouver que les esclaves allaient se retrouver à être les sandwichs qu'on mange à l'avenir. En gros, c'était les glaces, hein. C'était les glaces en fait, hein, dans New and Tasty. Là, c'est une bière, c'est l'histoire d'une bière en fait qui contrôle un peu les gens. Hein. Vous savez, un peu comme la 5G dans pas longtemps. Là, c'est une bière qui contrôle les gens et qui est faite à partir des esclaves. Et donc, c'est tout un propos aussi qui est bien amené, je trouve, qui est bien apporté, surtout dans le contexte actuel, comme je disais, la 5G, hein, vraiment, c'est le truc le plus important du moment.
Elle est déjà à Paris, monsieur. Hein.
Oui, c'est vrai, elle est déjà à Paris, mais bientôt.
Comme le scan des affiches.
Moi, mi-juin, je me la fais injecter personnellement, donc je ne sais pas pour vous. Donc, oui, on sera dans la bonne tranche d'âge pour pouvoir enfin se faire injecter le vaccin et donc la 5G. Bref. Voilà, mon Dieu. C'est vraiment, encore une fois, c'est le monde d'Oddworld. Donc, si vous aimez le monde d'Oddworld, déjà à la base, forcément, vous devez y aller. Il n'y a pas de question à se poser. Le problème, c'est que il faudrait que Oddworld Inhabitants puisse rectifier vraiment très vite tout ce qui est tous ces problèmes que je viens de vous édicter, sachant que ils sont quand même assez costauds et il faut vraiment être très très sympathiques avec le jeu pour les accepter. Moi, en tout cas, je pense que s'il n'avait pas eu tous ces problèmes, ça aurait pu être un des gros jeux du début d'année, sans aucun souci. Encore une fois, je vous dis, tout le côté artistique et tout le côté ludique fonctionne, mais c'est vrai que quand on a ce genre de soucis aujourd'hui dans un produit fini, ça peut refroidir. Donc, si vous avez une PS5, prenez-le assurément, vous n'aurez aucun regret de toute façon, puisque c'est PlayStation Plus sans avoir rien à dépenser. En revanche, si vous n'êtes pas du genre patient et que le moindre bug vous pose un problème, essayez de pas y aller, vous risqueriez de péter une manette. J'étais pas loin perso. Donc, Thomas.
Est-ce qu'il n'est pas symptomatique de son époque, justement, on en parlait avec Poufy avant d'enregistrer tout à l'heure par rapport à une certaine exclu PS4 où voilà, on a des jeux qui sortent dans un état, ça tient à peu près, mais il y a plein de trucs à corriger. Et si tu y retournes plusieurs mois après, pour ceux qui ont eu la patience d'attendre les patchs correctifs, là, tu profites d'une expérience un peu complète, mais le jeu a l'air d'être sorti peut-être d'une manière un peu anticipée, finalement.
Bah, c'est un peu étrange parce que ça fait quand même 6 ans, je crois, qu'ils l'ont annoncé. Et après, c'est une petite équipe hein, dans les Navitans, ils sont pas très nombreux, mais c'est vrai que c'est un petit peu bizarre qu'ils aient pas réussi à comme ça à fignoler un jeu qui est bon, je vais pas dire qu'il manque d'ambition hein, ça reste quand même un jeu qui est dans son style assez grandiose, mais c'est très surprenant ouais que même eux aient pas réussi à proposer un jeu bien fini. Et c'est vrai que c'est symptomatique de ce qu'on a aujourd'hui. Hein. Mais ce qui est encore plus surprenant, en fait, c'est qu'après Cyberpunk, on puisse encore avoir des jeux comme ça. Je pensais que Cyberpunk, c'était l'arrêté de justice qui faisait que bah, maintenant, les éditeurs ne peuvent plus se permettre de sortir des jeux vraiment... vraiment problématiques au niveau bug et au niveau finition. Alix.
Ouais, mais il y a plein de dates de sortie qui étaient déjà calées.
Ouais, ça c'est limite. J'étais en train de me faire la remarque quand tu parlais de Soulstorm. En plus, je vais te préciser un truc, mais c'est vrai que lorsque vous, je peux penser à ça, tu disais le fait que on doit tout reprendre depuis le début. On a un peu aussi ce problème-là dans le jeu dont je parlais avant, Outriders aussi. Mm. Un peu des fois sanctionné sur une partie du jeu et faut tout reprendre depuis le départ. Ça c'était pour la petite parenthèse, mais limite ça presque. Est-ce que c'est presque un vrai débat qu'on pourra avoir un jour dans notre podcast, c'est est-ce qu'on peut tolérer ou pardonner d'un jeu lorsqu'il est au moment de sa sortie, qu'il soit bourré de défauts et te dire « oui, mais bon, on va vous le patcher, etc. » Le principe des patchs et des mises à jour, moi, pour moi, une mise à jour t'apporte quelque chose en plus. Mmh. Ou alors, vraiment, à la base, une mise à jour d'un jeu, c'est que tu apportes quelque chose en plus. Tu vas apporter du contenu récent, ou à la rigueur, une fois que ton jeu est censé sortir dans une bonne qualité, ça peut être « on a changé un peu l'interface pour la rendre un peu plus accessible, un peu plus quali, moins gringe. » Aujourd'hui, j'ai un peu le sentiment que les patchs des jeux, mais quels qu'ils soient, c'est le côté « Ah, notre jeu, il est arrivé un peu broken, mais vous inquiétez pas, et dans 3 mois, il sera très jouable. » Mais dans 3 mois, c'est pas acceptable.
Moi, je me mets aussi à la place des développeurs et des studios. Là, parfois, et pour Cyberpunk, j'ai fait le test et je sais à quoi j'ai joué et je sais à quoi d'autres gens ont joué, malheureusement.
Ouais.
C'est un jeu qui a pas forcément donné la même expérience à tout le monde, mais pour certains développeurs, certains studios, des fois, les trucs, tu les vois pas passer. Des fois, c'est comme ça, tu peux avoir 4 personnes du QA, qui ont eu le jeu en main, ouais, et qui n'ont pas vu le truc passer, quoi. Ou qui n'ont pas eu ce bug, précisément,
Moi, sur Cyberpunk, je suis moyennement d'accord, parce que le jeu, dès le départ, a toujours été présenté comme un jeu PC, et on s'occupera des versions console après. Et tu vois bien que dans la façon dont ils ont géré Cyberpunk, moi j'ai le jeu sur les deux supports. Sur console, j'ai vite abandonné parce que dans l'état, c'est pas possible.
Ah, mais non mais voilà. Moi, je parle de la version PC. Hein, voilà. Les versions console, je les oublie complètement.
Voilà, mais typiquement, c'est-à-dire que moi, ça m'aurait pas dérangé en termes de com. Et alors, je sais qu'après, c'est autre chose. Il y a tout un microcosme économique, financier et marketing qui rentre autour. Mais pourquoi tu sors pas ton jeu d'abord sur PC puisque tu l'as pensé développer pour le PC? Et c'est pas grave, on peut attendre une année, c'est chiant, mais au moins, si dans un an, tu me proposes une version console qui est potable et excellente dès le départ, je signe. Voilà.
Thomas.
Après, il faut se dire aussi que ce sont tous des jeux qui ont passé non seulement le Q&A interne, mais surtout la validation des différentes plateformes qui les mettent en ligne. Alors, on sait que pour Cyberpunk, il y a eu des rétro-pédalages.
C'est un peu bizarre.
Mais, je suis d'accord avec toi, Alix, hein, sur le fait que les patchs ont l'air de servir à rectifier, à rendre le truc tel qu'il aurait dû être normalement au moment de la sortie. Mais voilà, il y a aussi tout un tas de procédures de contrôle que les jeux, a priori, passent. Donc il faut peut-être aussi s'interroger sur la manière dont elles fonctionnent et ce qu'elles laissent peut-être passer aujourd'hui en termes de jeux plus ou moins finis, quoi.
Bon, après, comme j'ai l'habitude de le dire, j'ai eu l'habitude de le dire plusieurs fois ces derniers temps, il y a des choses qu'on peut tolérer. Dans les bugs, dans les problèmes qu'un jeu peut présenter. Ouais. Le fait de recommencer un niveau, ça commence à être la ligne rouge pour moi. C'est, même si c'est des niveaux qui sont courts, même si c'est pas forcément, on va dire, très long ce que tu dois refaire, pour moi, ça commence déjà à être un vrai gros problème. Ouais. C'est là que le jeu aurait dû proposer un système de sauvegarde différent, déjà parce que tu peux pas proposer un truc où tu vas être obligé de recommencer à re-ramasser des objets à chaque fois.
Oui, mais
fois,
parce que t'as des problèmes de script, en fait, dans ce cas-là. Et pour le coup, on touche à un truc assez fondamental, du coup.
Ouais, bien sûr. Mais voilà, bon, moi, pour Oddworld, il y a des trucs que j'ai tolérés, d'autres pas. Mais c'est vrai que c'est problématique et qu'il faudrait peut-être que, à l'avenir, les développeurs fassent un peu plus attention. Cyberpunk, encore une fois, moi, mon expérience, ça a été, au début, beaucoup de problèmes. J'ai eu 2 patchs. Tout a tourné comme c'est pas permis. J'ai eu une expérience pratiquement idéale. Et mes bugs sur PC, c'était pas des trucs qui étaient chiants. C'était genre, je me suis téléporté une fois et j'ai vu un mec qui faisait un thé à un moment. Donc voilà. Ouais. Et malheureusement, je sais qu'il y a d'autres personnes, comme Poufy par exemple, même Camille, je crois, ou Rami, qui ont eu des problèmes, mais beaucoup plus problématiques que moi. Saoulant.
Ah, mais tu vois, typiquement, tu disais, il y a beaucoup de choses qui sont encore pardonnables. Bah, je trouve qu'avec le temps, c'est en train de devenir une mode de patcher son jeu, de le sortir. Et donc, du coup, pour moi, c'est de moins en moins pardonnable. Je parlais d'avec Outriders tout à l'heure des problèmes de connexion en ligne. C'est pas pardonnable. Le fait de devoir recommencer un niveau, alors que t'es pas censé, normalement censé le faire, comme disait Thomas, c'est un problème de script, c'est de moins en moins pardonnable. Mais si c'est un problème de script, c'est même un problème de choix, en fait. Donc, c'est même encore beaucoup plus profond. C'est juste qu'en fait, j'en ai un peu marre de ce côté. Bon, mon jeu, il est paf. Il a des petits soucis, mais dans 3 mois, vous allez kiffer. Bah non, je l'achète maintenant, j'ai envie de kiffer dessus tout de suite, quoi. Après, faut pas s'étonner que t'aies un parc de joueurs qui ne reviennent plus jamais, qu'il faut convaincre de nouvelles personnes. En réalité, quand tu sors ton patch, c'est une nouvelle clientèle que tu vas aller chercher. J'aime pas employer ce terme-là, mais c'est une nouvelle clientèle que tu vas aller chercher dans 3 mois, celle que t'as eu au départ. T'es pas sûr qu'elle va rester ou revenir, quoi. Donc, c'est un choix.
Ah, c'est vrai. C'est pour ça que je me mets en garde par rapport à Oddworld Soulstorm. Il y a probablement des choses que vous n'arriverez pas à encaisser. Et le fait est que, comme il est sur PlayStation Plus, il est offert avec le PlayStation Plus ce mois-ci, ça vous donne un moyen de goûter et de savoir si il est pour vous, pas malgré des problèmes qui peuvent se présenter.
Téléchargez-le maintenant et faites-le plus tard.
Aussi, c'est possible. Ça. Voilà, vous pouvez vous le mettre dans votre backlog et puis vous verrez plus tard. C'est une possibilité. Profitez-en. En tout cas, je lui ai donné son petit 7 malgré tout. Il aurait pu avoir beaucoup plus s'il n'avait pas eu tous ses soucis. C'est dommage. C'est très dommage. Mais bon, maintenant, on va passer au dernier thème de cette semaine. Thème qui est un débat. Voilà, un bon petit débat par rapport à une information qui a filtré la semaine dernière. Une information, Thomas, qui nous a été livrée par le toujours bien informé Jason Schreier, évidemment. Puisque il n'y a qu'à lui qu'on parle aujourd'hui. Je veux dire, là, moi, si j'avais besoin de me confesser par rapport à tous mes problèmes depuis le début de la pandémie, je pense que c'est Jason Schreier que j'irai voir. Il n'y a qu'à lui que les développeurs s'ouvrent.
Traz, non.
Ok. Non, c'est pas publiable.
Non, ce serait pas possible.
Bref, okay. Ça lui coûterait sa place.
Il a pu apprendre Jason Schreier qu'il y avait tout un mécanisme qui se mettait en place autour d'un remake de The Last of Us, Thomas.
Oui. Alors, c'était pas forcément le premier choix en fait de l'équipe en question. On resitue un tout petit peu le contexte de l'article, en tout cas ce qui est développé dans l'article de Bloomberg que je vous invite à aller lire si vous n'êtes pas fâché avec l'anglais parce que c'est vraiment très intéressant. En fait, on a un studio qui s'appelle Visual Arts Service Group qui était un studio qui filait en fait des coups de main pour finaliser ou s'occuper de telle ou telle partie de développement du côté de chez Sony. Et à un moment donné, son fondateur Michael Mumbauer décide que voilà, il faudrait s'attaquer à quelque chose d'un tout petit peu plus ambitieux que de filer des coups de main à droite à gauche, et du coup il réunit une petite trentaine de personnes, et leur choix initial se porte sur un remake d'Uncharted, le tout premier sorti sur PS3. Mais assez rapidement ils se rendent compte que y a beaucoup de choses du coup à reprendre, que le jeu entre guillemets est un petit peu trop dans son jus, et du coup il décide de s'attaquer à The Last of Us, donc d'en faire un remake sans avoir forcément évoqué le sujet auprès des instances dirigeantes de Sony. Du coup, après avoir bossé sur une première démo histoire de montrer ce que ça pourrait donner, il le présente au patron des PlayStation Worldwide Studios, donc Herman Hulst, qui était l'ancien boss de Guerrilla quelques années avant. Et le problème, c'est que il n'est pas particulièrement convaincu. En fait, le mec est et du coup, le projet est un petit peu mis de côté. On leur demande d'aller filer un coup de main à Naughty Dog, qui est en train d'achever The Last of Us Part 2, pour le coup, qui est évidemment une cartouche stratégique pour Sony. Et en fait, une fois que le développement est terminé, plutôt que de redonner éventuellement le projet Visual Arts Service Group, le projet arrive plutôt du côté de chez Naughty Dog. Et en fait, l'équipe qui s'y était attelée au départ se retrouve un petit peu exclu finalement du projet, et de peur d'être absorbé par Naughty Dog, quasiment tout le monde finalement s'en va pour travailler sur autre chose. Mais donc, d'après les informations de Schreier, désormais il y aurait un remake du premier The Last of Us qui serait actuellement en développement du côté de chez Naughty Dog. Voilà, d'après les informations en tout cas qu'il a pu obtenir. Et du coup, la question, je pense, que tu as envie de nous poser, c'est: en a-t-on réellement besoin?
Ah oui, c'est ça la question. C'est, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un remake d'un jeu qui est sorti en 2013, qui a été remasterisé, je crois, un an ou deux ans après pour la PS4? Est-ce que vraiment on a besoin, en plus, un jeu qui, de l'aveu de à peu près tout le monde sur cette planète, je crois, est considéré comme une œuvre intouchable, parfaite? Est-ce qu'on aurait vraiment besoin de ce genre de remake? Après, on peut citer l'exemple de Demon's Souls. L'exemple de Demon's Souls est très bon, puisque c'est un jeu qui est sorti aussi sur PS3, qui a été remaké de manière absolument impeccable l'année dernière. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Et là, je vais donner la parole à Alix.
En fait, je voulais être sûr avant de dire une connerie, mais j'étais quasiment sûr de. Quasiment sûr de moi. En plus, The Last of Us, la version remaster, elle est disponible sur PlayStation Plus Collection.
Absolument, ouais.
Donc sur la version PS.
Attends.
Si, je crois bien que c'est. Oui, je suis, j'ai la liste des jeux sous les yeux. Moi, je disais une énorme bêtise, mais.
Oui, ils ont mis pas mal de jeux first party qui comptaient sur la génération
d'avant. Donc ça veut dire que sur ta console next-gen, sur ta PS5, si tu veux te refaire The Last of Us, tu peux déjà te le refaire. Et tu te fais la meilleure version du jeu actuellement disponible. Donc,
oui, c'est vrai. En plus, elle est encore améliorée sur PS5 avec
ton
patch pour la rendre plus rapide, plus fluide, etc.
Déjà, d'une part, le jeu, il est incroyable tel qu'il est. Il y a rien à toucher. Mais en plus, tu peux déjà y jouer sur ta PS5. Donc, je comprends pas trop le côté. Parce que qui veut dire remake, va y avoir des adaptations peut-être de gameplay, des choix qui vont être pris. Moi, personnellement, C'est plus un The Last of Us Part 2 qui arriverait avec une mise à jour next-gen sur la PS5 qui, moi, m'intéresse. Et c'est ça que j'attends aujourd'hui. C'est ce que j'ai envie. J'ai pas envie forcément de me fader la version PS4 sur la PS5. Alors oui, elle sera plus fluide, tout ça, etc. Mais moi, si je devais attendre quelque chose, hormis évidemment un nouvel épisode, mais si je dois attendre quelque chose autour de cette licence-là, c'est tout simplement la suite actuelle qu'on a, la partie 2, hein, Gauthier, on rappelle, hein, l'année dernière, sur PS5, mais avec une vraie mise à jour next-gen. Moi, c'est ce que j'attends. Je crois que le côté remake du premier, déjà, je trouve que dans mon esprit, il arrive trop tôt, parce qu'en termes de communication, t'as le jeu qui est sorti en 2013, je crois que le remaster, c'est 2014, mais à vérifier. Ensuite, derrière, à un moment donné, tu l'avais eu en gratuit sur PlayStation Plus, si je dis pas de bêtises. Ensuite, tu annonces la PS5 dans les jeux du PlayStation Plus Collection, il est là. On rappelle que quand la suite est sortie, il avait baissé sur le store. Pour ceux qui n'avaient pas pu télécharger avant, il était à 10 balles, moi j'ai pris direct. J'ai pas pu le temps de le faire, c'est comme ça que je me suis fait le premier en un week-end. Donc, en fait, en réalité, sur ce jeu-là, il y a déjà une communication qui est quand même assez importante. On parle d'un jeu qui a 7 ans, et il y a quand même une grosse communication autour. Donc, est-ce que tu as vraiment... Enfin, moi, je compare avec ce que Capcom a fait. Resident Evil 2, on n'entendait plus parler de ce jeu. on n'en entendait plus du tout parler. Et là, ils t'annoncent un remake. Donc là, tout le monde est hypé en mode, ah ouais, on va rejouer à Resident Evil. Ils vont faire des choix, ils vont faire quelque chose. Pour moi, The Last of Us, le premier épisode, est pas assez old dans l'esprit des gens pour pouvoir mériter un remake. Voilà.
Thomas.
Pas du tout, enfin, je suis d'accord avec Alix, tu cites en plus l'exemple de Resident Evil 2, dont le gameplay, en tout cas celui de l'original, était assez daté, enfin, il ouais. est particulier, moi je l'apprécie toujours, mais il n'était plus du tout adapté aux standards actuels, donc si tu voulais effectivement le ressortir, pas le choix, pas possible de faire un remaster, il fallait une refonte complètement du cœur du gameplay. Là en l'occurrence, The Last of Us, ça reste, même la version PS3, j'ai envie de dire, un jeu qui est techniquement extrêmement ambitieux. Je parle même pas du plan narratif, etc., mais qui n'accuse absolument pas son âge et qui, du coup, ne justifie pas qu'il passe par la case d'un remake. À moins que derrière, il y ait juste l'envie de surfer sur le succès phénoménal et quand même assez largement justifié de sa suite, qui, comme tu dis, n'est toujours pas optimisée véritablement pour PS5. On attend forcément une version, une version remastered, finalement, de la part de Naughty Dog. Et moi, ça me peine énormément parce que d'un côté, tu vois que Sony ferme un peu la porte à tout un tas de projets originaux. On sait qu'il y a eu un démembrement en règle de Japan Studio, qui était, je veux dire, une entité d'une créativité mais folle, dont on a profité pendant des années et des années sur leur console. Et là, on a l'impression qu'on tourne déjà en rond, en fait, autour de vraiment une poignée de licences très fortes, avec évidemment une aura incroyable, mais c'est, pour moi, vraiment, c'est d'une pauvreté intellectuelle et surtout, ça dénote d'une espèce d'aversion à prendre le moindre risque du côté de chez Sony qui n'envoie pas de bons signes, je trouve, sur le plan créatif pour les années à venir. Parce qu'on a l'impression qu'on va vraiment tourner en rond en retrouvant toujours un petit peu les mêmes noms. Évidemment très fort, très vendeur. Mais est-ce qu'on n'a pas envie d'autre chose ? Il y a énormément de temps, entre guillemets, qui sépare les deux premiers opus, The Last of Us et Part 2. Est-ce qu'on n'a pas besoin de laisser aussi la série un petit peu respirer et peut-être de préparer l'arrivée d'un éventuel troisième épisode, si jamais il arrive, avec un remake, mais qui sortirait peut-être en fin de génération, quoi.
Alors, moi, je vais me permettre de faire l'avocat, peut-être pas l'avocat du diable, mais de mettre peut-être quelques éléments en plus dans la conversation. La première, c'est... première chose, c'est que le principe même du, on va dire, du remake, de la réécriture, ça existe dans d'autres médias. On est d'accord que il y a plein de films qui peuvent se retrouver remakés ou retravaillés d'une autre
mais
manière.
Mais c'est pas une bonne chose.
Pas forcément.
Si tu prends l'exemple de Spider-Man.
Ah bah voilà.
Okay, voilà. Okay. Entre la trilogie de Sam Raimi et les deux épisodes de Andrew Garfield. Les gens n'ont pas oublié la trilogie de Sam Raimi. Il y a même pas 10 ans. Il y a 10 ans entre Spider-Man 3 et The Amazing Spider-Man. Est-ce que en 10 ans, sachant le succès qu'a eu au niveau de la pop culture Spider-Man 3, notamment les deux premiers qui étaient excellents, après le troisième était plus sujet à débat, mais on n'a pas assez oublié par exemple, typiquement, Le Seigneur des Anneaux qui débarque en série sur Amazon, c'est le meilleur call possible. Parce que Le Seigneur des Anneaux, même si c'est une trilogie incroyable que je pense des millions de personnes ont quand même vu, le cinéma, la sortie en DVD, Blu-ray, disque, et puis maintenant le passage à la télévision, de voir, c'est quand même quelque chose. Moi, à chaque fois que je revois ce film, je me rends compte que même si je le connais par cœur, pourtant, je me surprends à réapprécier des passages. Et
ça fait 20 ans.
Et voilà, ça fait 20 ans. En fait, pour moi, 15, 20 ans, c'est une bonne date de péremption. 10 ans, t'es encore dans le côté, oui, c'est un peu old, mais il y a encore une génération. En fait, tu as une génération de gens qui ont pu passer à côté. Et aujourd'hui, la trilogie de Sam Raimi, typiquement, tu feras un remaster ou tu les ressortirais, ce sera un bon call maintenant parce que ça a été oublié. C'est-à-dire que dans l'esprit des gens, c'est plus Amazing Spider-Man qui est le hold de Spider-Man plutôt que la trilogie de Sam Raimi. Mais ils sont allés trop vite, ils sont allés beaucoup trop vite en besogne. Et du coup, je pensais un truc lorsque Thomas en parlait, excuse-moi Plume, parce que je t'ai coupé sur ton argumentaire. Mais
vas-y.
En fait, ce qui est assez inquiétant, c'est que faut pas oublier que Sony a décidé de miser à mort sur Uncharted, The Last of Us, on sait God of War finira par suivre, sur le côté adaptation en film et en série. Comme par hasard, la série sur HBO Max avec Pedro Pascal, c'est sur la première, sur le premier jeu. Comme de par hasard, on va nous faire un remake du premier jeu. Donc tu vois, t'as ce côté un peu. En fait, ce qui me fait chier, honnêtement, les amis, c'est que le sentiment que ce remake, ça va être un produit dérivé qui va accompagner toute l'exploitation en fait autre que le pur jeu vidéo qui a autour de The Last of Us avec cette série. C'est-à-dire que on vous sort la série, oh, comme par hasard, si vous voulez. En plus, ils l'ont déjà annoncé, il y aura des passages scénaristiques qui vont prendre des embranchements un peu différents, dans le sens où on va avoir des choses qu'on ne pouvait pas avoir dans le jeu. Ça va être plus moins d'action et plus de concentration sur le lore des personnages. On nous sort un remake. Je dis pas que il y a forcément une grosse coïncidence, mais quand même, tu sens l'exploitation marketing derrière, quoi. Et ça, je trouve ça.
Mais là, ils sortent un remake, mais et dans le jeu remake, ils te remplacent la tête de l'acteur qui jouait par celle de Pedro Pascal.
Ah, voilà. c'est la pire chose à faire.
Pourquoi pas? Non, mais après, dans les autres choses qu'on peut mettre en contrepoids, c'est que remake par remake, remaster ou autre, quoi qu'il arrive, permettre à plus de gens de rejouer à The Last of Us, et si il y a moyen, avec peut-être des mécaniques qui sont un peu retravaillées, parce que moi, le premier The Last of Us, je vous le dis, j'ai pas adhéré à 100% à la proposition ludique. Le fait de, je le répète à chaque fois, mais déplacer des palettes, déplacer des planches ou des échelles, pour moi, quand tu le fais une dizaine de fois, c'est pas une proposition ludique, c'est juste casse-couille. Donc voilà, ça faisait partie des trucs que je supportais pas. Et si on me propose quelque chose qui permet de rééquilibrer un petit peu justement certains passages, d'avoir un gameplay peut-être, on va dire, plus resserré et qui laisse moins de chance à ce genre d'agacement de ma part, par exemple, pourquoi pas? Bah, un jeu qui serait plus beau, qui serait peut-être, je ne sais pas, au niveau de la mise en scène encore plus percutant, tout est possible avec un remake. Si on parle de remake, voilà, c'est encore... Moi, je suis désolé, The Last of Us... Un, avec la technique de The Last of Us 2, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui crachent dessus?
Oui, mais est-ce que c'est vraiment...
Est-ce que tu craches dessus? Non, Thomas, est-ce que tu craches dessus?
Ah, t'as pas idée de sur quoi je crache, mais...
Non, mais...
Ouais, je trouve juste...
Est-ce que tu craches dessus? Réponds à la
question. Je te laisse ta parole, Camille,
non, alors,
juste après.
Pas de langue de bois, pas de langue de bois,
bah, tu veux pas de langue de bois? Je trouve que
tu réponds oui ou non à la question.
À la limite du radotage, puisque tu nous le répètes à chaque fois sur les échelles et les planches, c'est oui. De l'ordre... Je suis pas d'accord, mais je comprends ton point de vue. C'est quand même de l'ordre du détail, tu vois. C'est pas suffisant pour justifier une refonte de ce truc-là. Et l'argument qu'on nous sort très souvent, et promis après Camille je te donne la parole, c'est que oui mais on peut très bien faire ça, ça n'empêche pas qu'à côté les studios travaillent sur d'autres trucs. La production de remake commence à prendre mais tellement de place, tellement d'importance, mais le pire pour moi c'est que les gens maintenant les réclament, qu'on ne peut pas me soutenir que même aujourd'hui ça n'empêche pas des studios de bosser sur des nouveaux épisodes ou même blasphème des nouvelles licences, tu vois.
Ah, mais bien sûr, mais on parle pas de ça là, on demande
moi, si j'en parle.
Donc attends, si maintenant je te dis The Last of Us 1 avec la technique, tout l'aspect technologique du 2, est-ce que tu craches dessus?
Je m'en fous. C'est pas, ça n'est pas ce que j'attends.
Quoi? Quoi?
Le premier est un jeu fantastique, iconique, marquant dans l'histoire vidéoludique et sans doute culturelle.
Tu voudrais pas le refaire en mieux. Ça, si on mais te je... dit, tiens, il y a une version qui en
mieux. Il est
très
bien comme ça. Moi, je suis d'accord avec Alix. Il est beaucoup trop proche de nous pour qu'il fasse l'objet d'une refonte. Qu'est-ce qu'elle va apporter de si pertinent que ça?
Bon, je vous cache pas que c'est un peu saoulant de grossir le trait comme ça. Hein. Je vais encore passer pour un... Mais j'étais obligé de le faire. Camille, tu voulais ajouter quelque chose? Moi, je voulais juste, oui. Avant que tu en parles, dire aussi, s'il y a un remake PS5, la possibilité que le jeu fasse comme d'autres jeux PS4 en ce moment, c'est-à-dire qui débarquent finalement sur PC par la suite,
oui.
Et profiter justement des bienfaits technologiques dont supposés, on va dire.
Bah, d'autant qu'en plus, on l'a bien vu, hein, que ce soit du côté de chez Microsoft ou du côté de chez Sony, il y a une politique qui est en train de très clairement changer vis-à-vis du PC, avec des exclus qui ne sont plus des exclus et qui sortent aussi sur PC, qui sont prévus sur PC. On l'a vu ces dernières années, à partir de l'année dernière, que Sony est vraiment ouvert à l'idée de sortir aussi ses jeux sur PC. Alors peut-être pas tous, mais en tout cas, c'est clair qu'il y a un truc, il y a un déclic qui s'est fait.
Ah bah, quelque chose qui a changé. Horizon l'année dernière, cette année Days Gone. Days Gone, je soupçonne, c'est pour essayer de le rendre rentable, parce que visiblement ils n'ont pas l'air d'avoir fait beaucoup d'argent avec. Mais,
ouais, mais oui, en plus, comme je le dis souvent, le marché du PC, c'est pas juste l'Europe et les États-Unis. Le marché du PC maintenant, c'est aussi la Chine, Alors certes, les Chinois sont attirés par des jeux, des genres de jeux qui sont pas forcément les mêmes que les Occidentaux apprécient, mais mine de rien, les pays à forte population, que ce soit la Russie, la Chine, la Corée, c'est des pays qui sont majoritairement PC, quoi. Et donc, il y a un marché énorme à conquérir, quoi. Enfin, donc forcément, c'est normal que des éditeurs, enfin des éditeurs de consoles, des constructeurs consoles, se disent ah bah il y a quand même un truc financier à aller chercher là-dedans, quoi. On ne peut plus se permettre d'ignorer et dire ouais le PC c'est nébuleux, c'est que une frange particulière de la population. Enfin, c'est plus jouable en fait de penser comme ça maintenant, quoi.
Juste, Alex. Je vais rebondir sur ce que tu disais, Plume, parce que c'était assez infâme. Je t'ai entendu.
J'avais quand même. Et je le reconnais. Personnage que j'étais obligé de me créer à cause de vous, dans un camp, est absolument infâme.
J'avais quand même les oreilles qui saignaient lorsque tu parlais des palettes, etc. En fait, il faut que tu vois deux choses. Il ne faut pas oublier qu'il y a une évolution de l'histoire.
Je change jamais d'avis.
Alors, attends, j'ai des arguments. En fait, il y a quand même une évolution de l'histoire et du gameplay entre le premier et le deuxième. Je ne sais pas, mais moi, l'aspect, la mort à chaque seconde, chaque instant, le côté survie, je trouve que tu le ressens plus dans le premier The Last of Us ou dans le deuxième. T'as plus, bon, je vais pas spoil pour ceux qui l'ont pas fini, mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte et tu es dans un gameplay beaucoup plus agressif. Tu sens que t'as quand même un peu plus d'assurance, en fait. Voilà, tu maîtrises un peu mieux le monde dans lequel t'évolues.
Et donc, c'est assez logique.
Et voilà, et donc t'es plus dominant par rapport à ton environnement. Enfin, tu subis moins les choses.
Dans le premier,
oui,
Ellie, elle est peinarde, hein.
Oui, c'est Joël qui prend tout, on sait bien.
Ouais, elle, comme elle est invisible, tout va bien, tu vois, tu peux faire ce que tu veux.
Enfin, elle est invisible. Quand tu vas te planquer, Kelly, elle est de l'autre côté, qui met 10 ans à se planquer et qu'un monstre te voit et que tu te fais repérer à cause d'elle, c'est un peu chiant.
Elle n'en a rien à foutre dans Last of Us 1, Ellie, d'être planquée. Elle se planquait pas, elle passait devant les ennemis.
Donc, bref, le coup de la palette, etc., moi, ça m'a pas choqué parce que faut pas oublier que Joël, c'est pas un surhomme. On va pas nous casser une mécanique de gameplay pour dire ah, Joël, il peut faire un saut et attraper. En fait, moi, j'ai pas vu ça comme toi, comme un gameplay, une mécanique chiante. J'ai vu ça comme un truc un peu réaliste. Un être humain, il veut monter sur un truc, il va servir d'une échelle, il va servir d'une palette, il va ramener ça. Bien sûr qu'il pourrait le faire. Mais c'est dangereux pour lui. C'est-à-dire que voilà, là.
Il n'est pas tout jeune, le mec.
Il n'est pas tout jeune. Il fait quelque chose de sécure pour lui permettre d'ouvrir le passage. Je pense à ça parce que tu vois, il y a des séries sur la survie, tu vois, The Walking Dead, plein de choses, où il y a des choses qui sont complètement what the fuck et c'est trop, et d'autres qui sont très réalistes. Moi, le coup de la palette, justement, ça m'a encore plus imprégné dans l'histoire. Moi, être humain à la place de Joël, qu'est-ce que je fais? Je veux monter sur cet échafaudage. Même si je pourrais me servir de mes mains, est-ce que tu penses que 90% des gens dans cette situation, c'est assez adroit pour pouvoir remonter en rappel?
Dis-le, mais toi, Plume, tu ferais quoi dans cette situation?
Voilà, tu ferais quoi, Plume, toi?
Pourquoi designer des séquences comme ça et les faire se répéter? Pourquoi pas penser à d'autres choses? Tu vois, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et je tiens quand même à dire que dans The Last of Us Part 2, si je ne m'abuse, il y a un dialogue au moment où Dina et Ellie descendent dans une cave à bleu, où ils parlent de ça, d'ailleurs, si je ne m'abuse. Et dans Uncharted 4, rappelons-le, je crois que c'est au début. Non, c'est pas dans Uncharted 4, dans Lost Legacy, ça parle des chariots à pousser en disant non, mais t'inquiète, il n'y en aura plus, parce que dans Uncharted 4, il y en avait trop. Ils en sont conscients chez Naughty Dog que quand ils mettent une mécanique et qu'ils la répètent un peu trop, ça se voit et que ça peut être chiant. Donc voilà, ça, je ne l'ai pas inventé, ça me déplaît. Je ne dis pas que ça m'a sorti complètement du jeu, heureusement non. Ouais. Mais néanmoins.
T'as pas saisi la magie de l'instant.
Non, mais alors vraiment. Bref, on va en rester, je pense, là-dessus. En tout cas, on peut considérer effectivement que, suivant tout ce qu'on vient de dire, et moi en sortant du personnage que j'étais obligé d'incarner malheureusement dans ce débat, que effectivement, on n'a pas forcément besoin que The Last of Us soit retouché. Il y a peut-être des choses plus importantes à faire à côté.
Enfin, pas tout de suite, en tout cas. Celui-là, pas tout de suite. On n'a pas besoin qu'il soit retouché tout de suite, en fait. Voilà.
Oui, parce qu'il n'a pas si mal vieilli, hein, finalement.
Ah, c'est ça. Bon. Et qu'il y a trop de com' autour encore, aujourd'hui, je trouve. Donc, voilà.
D'accord. Et à moins qu'il sorte amélioré sur PC, finalement.
Tu sors le remaster sur PC, c'est pas un souci.
Voilà, mais pas sur quoi.
Tu peux le sortir tel sur PC, il n'y a pas de souci. C'est pas sur console, ouais. Bon, vous aurez compris, ça sera à vous de faire la suite de ce débat chez vous, savoir si vous voulez un remake de The Last of Us ou si vous voulez The Last of Us Part 3 tout de suite, comme nous, par exemple.
Mais non.
Quoi? Comment ça, non?
Mais non, laissez respirer la série, bordel. C'est pas possible, ça.
Non, mais je comprends pas. Comment ça? Laissez... s'il est bien. si Druckmann et
pour qu'il ait de l'impact, il faut qu'on ait du temps entre les deux. Oui. Il faut que les gens le digèrent.
On a tous sauté au plafond quand The Last of Us Partie 2 était annoncé parce qu'on l'a attendu. Là, il n'y a pas d'attente. S'il sort tout de suite, c'est quoi l'attente, quoi? T'auras eu quoi, 2 ans, 3 ans? C'est ridicule. Enfin, non, faut.
Et puis, tu veux quoi? Tu veux que les développeurs ils crunchent encore pendant plusieurs années, hein? C'est ça que.
Je capte pas, moi. Avengers Endgame et la suite, t'aurais préféré attendre.
Franchement, ouais. Surtout.
T'aurais pas voulu. Non, t'aurais voulu qu'il puisse voir Endgame et il soit espacé d'un jour.
Non. Bah, tu vois, le Seigneur des Anneaux, si j'ai apprécié, c'est qu'à la fin de la communauté de l'anneau, j'étais là en train de me dire, il reste plus que 5 minutes, on n'a pas vu Sauron. C'est bizarre. Je suis allé voir le film sans savoir que c'était une trilogie, faut le savoir. Et là, je fais, rendez-vous dans un an. ça m'a fait mal aux fessiers, mais après j'ai eu un an pour attendre. Non, c'est trop bien en vrai. C'est chiant sur le moment, mais ça crée de la frustration, de l'attente, du rêve, du fantasme. C'est génial.
Et puis il faut penser à la production aussi.
Voilà.
Ça fera un autre débat sur l'écart entre les sorties des jeux. On en reparlera une autre fois. Ainsi se termine ce podcast. Merci Thomas, merci Alix, merci Camille, merci.
Merci.
Ah oui, putain, c'est vrai, c'est Camille.
À la sono. Et oui, c'est Camille.
On a du mal à faire.
Merci de vous fier à la sono, je le disais. Merci à vous, évidemment, de nous avoir suivis une fois de plus. Merci de votre fidélité. La semaine prochaine, nouveau podcast. On espère vous y retrouver en pleine forme. N'oubliez pas de faire attention à vous. Hein, le masque, les gestes barrières. Si vous pouvez, faites-vous vacciner. Hein. Je sais pas, il y a des vaccinodromes qui s'ouvrent un peu partout. Allez-y en fin de journée. On ne sait jamais. Moi, en tout cas, j'y vais. Je vais tenter le coup ce soir. On ne sait jamais. Hein, je vais aller au Stade de France, faire comme si j'avais plus de 60 balais. Ça pourrait peut-être passer. Je ne sais pas pour vous.
Ouais, ça passe.
En tout cas, j'attends ça avec beaucoup d'impatience.
Quand ils en parlent des échelles et tout, ils vont dire « Ah, il est encore là-dessus, le monsieur, ça doit faire longtemps qu'il tourne en rond. Hein. »
Ah, je vais arriver avec une palette comme ça. Regardez, c'est du génie.
Ouais, moi, je pense que ce soir, tu as ta première dose.
C'est ça.
Moi, j'aurai même les deux doses d'un coup, je pense. je pense qu'à ce niveau-là, je les ai une dans chaque œil, même si tu veux, pour pas se fermer ma gueule. Bref. À la semaine prochaine, bisous, ciao.
Salut.
Ciao.